Voilà, je vous invite à la prière et nous allons partager la parole du Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes des oreilles des disciples et un cœur Seigneur pour entendre, une intelligence de l'Éternel pour saisir les réalités du ciel qui sont désormais notre réalité à nous. Nous te bénissons pour ton esprit qui se répand sur nous qui sommes ici à la montagne. Et l'Esprit de grâce qui se répand sur nos bien-aimés au foyer. Et tous ceux qui, dans le monde ou proches, qui suivent cette émission à distance. Nous voudrions te rendre grâce et te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques semaines en arrière, nous avons eu un petit partage sur la vie paroissiale. Autour de quelques questions, dont voici. Qu'est-ce que c'est que l'Église du Christ ? Et j'insiste sur le mot Christ. Quelle est sa nature? Et moi, qui suis-je dans tout cela? Quelle est ma responsabilité? Et il y avait des échanges qui avaient eu lieu, où des états de cœur se sont exprimés. Des frustrations qui ont pu trouver leur réponse. Mais dans tout ce qui avait été dit, nous avons essayé de le résumer en 4 points. Et ces 4 points résument l'ensemble de l'expérience que moi, personnellement, j'ai vécue dans toutes les communautés qui se disent chrétiennes. Le premier point, c'est que pour vivre la vie de l'Église ou pour vivre l'Église, une première condition est fondamentale. Il y en a 4. Mais s'il n'y a que les 3 de 4 qui sont appliqués, on ne voit pas le bénéfice. Premièrement, c'est d'être assidu aux rencontres de l'Église. Nous l'avons vu tout à l'heure comment les enfants ont lu ce texte de Actes. Ils étaient régulièrement réunis autour de la parole de Dieu par la fraction du pain et le partage. Et donc, on voit que l'assiduité régulière est une des conditions fondamentales qui permet de pouvoir recevoir de la part de Dieu tout ce qui est nécessaire. Deuxièmement, la condition d'être présent à chaque circonstance de la vie de l'Église. Et quand Jonathan était présent, c'est se montrer solidaire dans la vie de chacun de nos bien-aimés qui traversent parfois des difficultés. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie isolée. Et vous verrez bien tout à l'heure, dans la suite des événements que nous allons donner. La troisième condition, c'est que lorsque nous savons tout cela, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous restons à l'extérieur comme spectateurs, nous n'avons rien. Et souvent dans l'Église du Seigneur, c'est ce qui se passe en général. Et spectateur. On ne voit pas les choses de manière participative. L'Église, excusez-moi, dans les temps qui courent, a été colorée par la philosophie que nous avons de notre monde. Qu'est-ce que notre monde nous apprend? Il nous apprend à aller à un endroit où nous pouvons trouver notre bénéfice individuel, sans pour autant voir ce que nous pouvons apporter. Si vous regardez le monde à l'heure actuelle, la philosophie est celle-ci. Qu'est-ce que je peux tirer? Quel avantage dois-je tirer d'une situation? Mais on ne voit pas l'inverse. Et si notre mentalité est colorée par cette pensée humaine, elle rejaillit inévitablement sur la communauté de l'Église. Cela suppose que pour vivre les conditions que la parole de Dieu nous le montre, il faut qu'il y ait un déclic, un changement se fait. C'est pour ça que l'Église, c'est une famille nouvelle. Une famille qui n'est pas celle qui est biologique. Une famille qui n'est pas celle qui est adamique seulement. Sauf si les frères et les sœurs, sauf si les membres de ma famille acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur, à partir de ce moment, nous sommes transposés dans un espace de famille adamique et nous sommes dans un espace d'une famille qu'on appelle la famille de Dieu. Donc, il y a 2 identités qui définissent notre marche communautaire. soit nous marchons selon les principes de notre nature ancienne, ou soit nous marchons en fonction de notre nouvelle identité. Et la question de nouvelle identité se pose en termes de la nouvelle naissance, en termes de changement de mentalité, en termes de changement de valeur, où cette valeur est une valeur de donner, pas simplement que de recevoir. Et le dernier point, qui n'est pas sans importance, qui est la prière. Quand on prie les uns pour les autres, je peux vous avouer, on ne peut que vouloir du bien de l'autre. Et si quelque chose lui arrive, nous le ressentons directement par la compassion. Et nous réagissons positivement pour pouvoir le sauver. Et ça, c'est un élément très fondamental. Voilà les quatre conditions. Donc l'Église est un endroit où nous sommes venus pour recevoir. Et Luther le disait, c'était pour être materné, c'est bien. Mais en même temps, nous sommes des maternants. Nous recevons et nous donnons en même temps. C'est ça la situation de l'Église. On ne fait pas que recevoir. On reçoit et on donne. Voilà, c'est l'introduction que j'aimerais poser à cet exposé que j'aimerais partager avec vous. Et nous arrivons au texte du jour que nous avons déjà chanté tout à l'heure. Je le reprends. Psaume 133. Les amis du groupe des frères, ils appellent ça le GPS. Le groupe des personnes seules. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Permettez-moi de le lire. « Oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Point. Et le deuxième verset, « C'est comme l'huile, c'est une comparaison là, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. » Et souvenez-vous, Aaron, c'est le grand sacrificateur qui descend sur les bords de ses vêtements. Voilà le texte de base de notre réflexion de ce matin. Mais si nous tenons à cela, on ne va pas aller beaucoup plus loin parfois dans la richesse que ce texte nous donne. Donc je vais rajouter un autre texte qui nous permet de mieux clarifier. C'est ce texte que vous connaissez tous, Matthieu chapitre 18, verset 20. Permettez-moi de le citer. « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est Jésus qui parle. Je serai là au milieu d'eux. » Vous voyez, là où deux. Deux, c'est le minimum pluriel. Et c'est souvent le foyer. C'est le point de départ des mariages. Donc si deux personnes, hommes ou femmes, se retrouvent, on peut l'étendre. En mon nom, moi, Jésus, je suis au milieu d'eux. C'est très important, ça. Je serai là au milieu d'eux, et de même, je suis au milieu de vous. Et Jésus l'a dit avant même qu'il soit élevé vers le ciel. Et lorsque Jésus est élevé vers le ciel, il dit, « Attendez-moi, je vous enverrai un consolateur. Il sera avec vous, il sera en vous, il sera sur vous. » Et nous pouvons maintenant affirmer sans risque de nous tromper que Jésus vit en nous. Là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, lui, il est là, mais plus que ça, il est parce qu'il fait de nous le temple de son esprit. Voilà le point de départ de ce que l'apôtre Paul appelle le temple spirituel que nous représentons. Chacun d'entre nous est une pierre vivante de ce temple. Et c'est pourquoi il est écrit, permettez-moi de le citer, « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, ou dans la construction qui est ce temple spirituel qu'est l'Église du Christ. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels comme nous venons de le faire par les chants. Et ces sacrifices seront agréables à Dieu. Par qui ? Par le Christ. » Et dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il est dit, « Mais le Christ est fidèle en tant que fils, placé à la tête de la maison de Dieu. » Qui est la maison de Dieu? C'est l'Église de Jésus-Christ, ce temple spirituel, dont chacun d'entre nous est une pierre vivante, chacun d'entre nous est membre. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Vous savez, l'Église, elle prend son origine dans l'ombre des réalités du passé. Si vous regardez la vie de Jacob, dont nous avons parlé à deux reprises, lui, à son temps, il appelait la maison de Dieu la porte du ciel ou la porte des cieux. Il nommait la maison de Dieu Bethel, autrement dit la maison du pain. Et vous savez très bien que la maison de Dieu, c'est la maison du pain. Pas simplement du pain que nous mangeons pour tenir physiquement, même si cela représente cela, mais il s'agit du pain de l'âme et de l'esprit qui correspond à la nouvelle identité qui est la nôtre désormais. Pour faire partie du corps de Christ, quelqu'un d'ancien ne peut pas en faire partie. La vieille nature ne peut pas en faire partie. Il faut avoir la nature de Christ pour faire partie du corps de Christ, dont lui-même est la tête. Voilà ici une question de bénédiction, comme l'huile qui tombe d'en haut sur la barbe, et la barbe d'Aaron c'est vers le bas. L'huile toujours quitte vers le haut, et c'est Jésus qui bénit. Et nous en verrons les bénéfices tout à l'heure. Et c'est là où j'espère que vous l'avez bien remarqué, hein, dans la première lecture, c'est là où découlent les bénédictions. Et quand j'entends les bénédictions à chacun de nos besoins, les plus subtils, les plus cachés, à chacun de nos besoins, que nous soyons forts ou faibles, que nous soyons instruits des choses de Dieu ou pas. Et ça, c'est Dieu qui le donne. Et lorsque nous nous retrouvons, ces types de bénédictions ne font pas défaut. OK ? Alors, je voudrais que chacun d'entre nous, ce matin, ici comme en bas, quitte la présence de Dieu avec cette intime conviction qu'aucune existence humaine qui veut se déployer en dehors du cadre établi par le Père soit une vie réussie. Peut-être vous aurez l'apparence d'un succès, mais ce n'est qu'un succès temporaire. Et par la suite, tout va tourner en vrille si vous sortez de l'ornière établie par le Seigneur. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Surtout par les temps qui courent, lorsque tous les repères lumineux qui sont censés nous orienter dans notre marche, qui sont censés nous inspirer dans nos décisions, dans notre manière de vivre juste. Vous voyez que l'un après l'autre, tous ces repères lumineux les plus voyants s'éteignent. Et nous avons intérêt, spirituellement, salutairement parlant, de nous raccrocher de la parole de Dieu qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin et dans la bonne direction avec le Seigneur. Alors j'en reviens à ce texte de Matthieu chapitre 18. Ce texte de Matthieu souligne un autre aspect de la vie chrétienne dont nous avons tous besoin. Parce que la Bible dit dans le livre de Somme que vous qui n'avez pas une famille, je vous donnerai une famille. C'est Dieu qui parle. Et celui qui ne veut pas intégrer cette famille, il sera comme une personne qui est isolée sur une terre desséchée. Et celui-là, il ne verra pas le bonheur. Et le bonheur de Dieu est lié à notre rassemblement. Alors donc, la vie chrétienne, elle est liée à l'autorité. Cette vie, elle est liée à l'autorité. Et l'autorité, c'est celle du Christ. L'autorité du Christ. Christ, il est l'autorité spirituelle. C'est de lui que découle ce rassemblement. C'est en son nom que nous nous réunissons. Et c'est pour lui que nous nous réunissons. Et en nous réunissant, nous rendons le corps de Christ visible. Visible. Christ l'a été dans la chair, mais à un moment donné, il ne l'est plus. Mais le corps de Christ est rendu visible aux yeux du monde au travers de votre présence, au travers de ma présence. Vous voyez très bien que si nous remontons quelques années en arrière, nous ne pouvons pas nous dire avec affirmation que nous appartenons au Seigneur. Qui aurait pu imaginer qu'un jour ou l'autre, nous allons nous retrouver à la montagne de Grisac pour pouvoir partager la parole du Seigneur? Moi, dans mon pauvre Afrique, quand j'entends les chants de l'arc-en-ciel ou des ailes de la foi, et qu'on parlait de Montégoal ou de... Je le chantais à tue-tête, mais je ne savais pas. Quelques années en arrière. Mais lorsque je viens, je vois que c'est une réalité pour moi. Et cette réalité reposante des personnes qui sont qui? Qui sont vous. Et pour lequel nous nous appelons frères et sœurs. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mesurez le poids de ce mot. Et j'en reviens. Si nous nous appelons frères et sœurs, il y a une idée de filiation qui est là. Qui est le Père? c'est Dieu. Et le mot Père donne sens à deux définitions. C'est celui de qui viennent toutes choses. C'est l'origine créationnelle des choses que nous voyons. On pourrait dire, celui qui a créé quelque chose, il est le Père d'une telle chose. Mais Dieu, il est le Père de la création, certes, mais plus que cela dans cette création qui a été dénaturée par le péché, souvenez-vous, Dieu a tout établi, mais il a mis un pasteur qui n'a pas obéi aux lois de Dieu. C'était Adam. Les lois de Dieu ne remontent pas aux 10 commandements d'Exode chapitre 20. Les lois de Dieu sont dans le jardin d'Éden. Je te donne l'autorité. Je te confie. Tu es mon intendant. Je ne peux pas descendre physiquement pour suivre tout ce qui est physique parce que moi, Dieu, je suis spirituel, mais je te communique ma nature pour que, au travers de toi, je dirige toutes choses. Mais est-ce que Dieu a atteint son but? Il ne l'a pas atteint. Parce que Adam et Ève avaient méprisé la parole de Dieu. Ils avaient succombé à la séduction du serpent. Et depuis lors, il a fallu que Dieu recrée quelque chose de nouveau. Et recréer quelque chose de nouveau, c'est déjà recréer l'espace. Tu ne peux pas recréer un espace nouveau pour mettre de l'ancien. Ce n'est pas possible. Donc si Dieu crée un espace nouveau, dans cet espace, il le peuplera avec des gens nouvelles. Des gens nés de nouveau. Pas ayant la nature déchue, mais une nature nouvelle qui est incarnée par Jésus-Christ. L'homme, H par excellence. C'est l'image de Dieu. Et c'est cet homme-là vers lequel nous tendons. Et c'est vers lui que nous devons ressembler. Et c'est lui qui est venu initier un royaume des nouveaux frères et des nouvelles sœurs, dont Dieu est le Père, et lui, il est le premier-né. Voilà pour quelles raisons nous nous appelons des frères. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Vous voyez le sens du mot? Il va beaucoup plus loin. Alors, donc ce mot, ce verset de Matthieu 18, fait office, nous renvoie à l'autorité et à l'autorité du Christ. Et l'autorité signifie aussi un lieu de protection. L'Église est un lieu de protection. Vous sortez de l'Église, vous vous exposez. Ah oui. Je me plais toujours à vous raconter, parce que parfois la nature nous envoie des images qui nous instruisent. Si vous regardez les documentaires animaliers qui se passent parfois en Afrique, qui se passent parfois en Asie, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des bêtes dans le milieu animalier, mais c'est le plus fort qui gagne toujours. Mais dans ce contexte-là, c'est souvent des lions. Et quand le lion, il veut écarter une proie de l'ensemble du troupeau, il pousse un cri. Et les plus faibles affolés se détachent de l'ensemble du troupeau et le prédateur les isole. Une fois isolés, c'est fini. C'est fini. Et donc, le diable, que la Bible emploie comme le lion rugissant, il est là, il murmure. Parfois, en nous donnant des théories que le monde nous raffole et qui anesthésie parfois l'acuité des vérités dans notre cœur. Beaucoup de vérités dans notre cœur sont amenuisées à cause de ce que nous entendons. Il n'y a pas de chaîne chrétienne à laquelle nous pouvons nous abreuver, sinon il faut aller à une chaîne extérieure. Mais en France, l'ensemble de toutes les chaînes de la télévision, elles nous envoient quel genre d'émissions dont nous nous raffolons. Mais si nous nous raffolons de ces émissions, mes bien-aimés, de toutes ces paroles, quelle sera notre mentalité? De quoi nous nous nourrissons? Quel est le degré des ingrédients qui sont dans ces paroles qui peuvent nourrir notre âme? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il est important pour nous de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la parole de la vérité. Et les fondamentaux, c'est les milieux des frères et des sœurs qui sont un lieu de protection. Quoi qu'il arrive, c'est un endroit où nous allons trouver des ressources. Alors, ils ont fait une étude où ils ont posé la question à un Japonais. Il lui a été dit que mais si quelque chose de grave t'arrive maintenant, à quoi tu penses? Le Japonais dit que je pense à ma famille. Je pense à mon épouse, à mes enfants, à mes frères, à mes parents, et à tout le monde. Ah, ils ont posé la question à un Français, non, plutôt un Américain d'abord. Il lui a dit que lui, quand quelque chose de fort lui arrive aujourd'hui, qui met sa vie en danger, à quoi il pense? Il dit, je veux me débrouiller à m'en sortir. Vous voyez, c'est des mentalités complètement différentes. Nous voyons dans un autre milieu, en termes de culture, la mentalité de l'individualisme, qui parfois, à première vue, n'est pas quelque chose de négatif. mais qui, à force de forcer les traits, nous ramène dans un égocentrisme qui nous coupe un tout petit peu de l'élan communautaire duquel nous devons retrouver la force pour nous permettre d'avancer. Ça nous isole. Et nous, chrétiens, nous devons tirer leçon de ça. Nous ne pouvons pas avoir la force en dehors de nos frères et de nos sœurs. Et c'est d'où il est nécessaire de nous retrouver, de partager la parole du Seigneur, d'être présent dans les moments difficiles des uns et des autres, d'être présent pendant les périodes de joie. Un petit clin d'œil renforce. Un petit sourire à la sortie du culte. Vous ne savez pas quelle énergie vous donnez à un individu. Et voilà, c'est de cette manière que nous sommes un peuple différent dans ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tout cela tient à notre identité. Tout cela tient à notre identité. Quand la chenille devient papillon, il ne peut plus redevenir chenille. Il a quitté le stade d'une nature ancienne pour entrer dans une nature nouvelle. Et avec cette nature, il a un nouveau régime. Il a une nouvelle valeur. Et la valeur qu'il doit développer pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la valeur de recevoir, mais de donner. Donner. De donner. Le principe de réciprocité joue. On sort de l'individualisme, on rentre dans un principe de réciprocité qui se définit par une règle d'or sous deux formes. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même. Ça, c'est la forme négative. Et la forme positive, c'est que fais à autrui ce que tu veux qu'on te fasse à toi. Mais là, c'est un peu nuancé. Ça, il faut s'aimer soi-même, il faut se protéger pour faire du bien à l'autre. Et je m'aperçois que beaucoup de personnes dans notre monde, le diable les a tellement dénaturés qu'eux-mêmes ne s'acceptent plus. Ils se trouvent trop gras, ils se trouvent trop petits, ils se trouvent trop hauts, ils se trouvent ainsi. Ils ne s'aiment pas. Et donc, la première des guérisons commence à ce que Dieu t'amène à t'accepter tel que tu es comme une créature. Il n'y a pas un double Michael. Il n'y aura pas une double Christelle. Il y a une seule personne dans l'histoire de l'humanité que Dieu a créée, qui est vous, toute seule. Vous êtes un seul exemplaire, il n'y en a pas double. Et comme vous êtes ainsi, Dieu vous conduit de manière spécifique. Et vous soustraire à l'ensemble de la communauté, c'est comme si vous enlevez une couleur à l'ensemble de la peinture que Dieu veut établir. Et vous privez les gens de la grâce. Car l'Église, en tant que telle, c'est un moyen de grâce. Un moyen qui nous permet de grandir. La parole de Dieu, c'est un moyen de grâce. L'Église, c'est un moyen de grâce. C'est un environnement favorable à notre épanouissement spirituel, physique. Et quand on est ensemble, on peut faire de grandes choses. Aucune maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et l'Église, depuis le lustre, on aurait pu même faire un séminaire dessus. Depuis le lustre, l'Église dite du Christ s'est illustrée par sa division. D'autres diront que si Jésus venait, c'est dans leur Église qu'il viendrait, mais pas dans l'autre. Mais comment Dieu regarde l'Église? Vous vous êtes posé cette question? Est-ce qu'il y a une différence entre les yeux de Dieu en regardant l'Église réformée évangélique et les autres Églises? C'est nous qui définissons les cloisons. Pentecôtisme, réformisme, ou alors je ne sais pas quel mot qu'il faut donner. Mais aux yeux de Dieu, on n'est pas divisé. Nous sommes le même corps de Christ. Simplement que certains prennent un trait de vérité, ils ont tellement lustré cette vérité que ça crée un déséquilibre dans l'ensemble. Toutes les vérités de Dieu se tiennent. Et donc, même si les gens ne font pas partie de notre dénomination, mes bien-aimés, regardez-le s'ils prononcent le nom de Dieu, regardez-le comme un frère en Christ. Tout en étant prudent. Parce que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous des frères. Ça, je peux vous l'avouer. Et l'apôtre Paul, il est le premier à avoir vécu. Et il nous met en garde. Il nous met en garde. Démas, par exemple, dans la parole du Seigneur, l'apôtre Paul met le corps de Christ en garde contre de telles personnes qui veulent être toujours premier en tout, qui ne recherchent pas la gloire de Christ, mais qui recherchent sa propre gloire. Et nous voyons que dans les dénominations, les gens travaillent pour leur propre chapelle, mais pas pour le corps de Christ. C'est juste un signalement pour que nous soyons prudents, pour savoir là où nous mettons les pieds. Mais donnez crédit à quelqu'un. Quand quelqu'un se dit enfant du Seigneur, accordez-le lui. Jusqu'à ce que vous voyez s'il est vrai ou faux. Parce que le temps viendra où celui qui ment, il finira toujours par se dénoncer. Donc les membres de la famille de Dieu sont unis entre eux, parce qu'ils sont liés à une personne qui est celle de Christ. Et voilà la condition qui nous permet de vivre une vie nouvelle, parce que nous sommes dans un registre nouveau. Connaître notre identité, et cette identité doit être consolidée par le vivre ensemble. Permettez-moi de souligner un événement que Christ a vécu et qui viendra allumer et apporter un éclairage dans ce que je voudrais dire. Dans Luc, chapitre 8, verset 21, vous le trouverez dans les autres évangiles. Les gens cherchaient Jésus parce qu'il était en train d'enseigner dans une synagogue. Et voici ce qu'on lui dit. « Jésus, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils désirent te voir. » Autrement dit, ils te cherchent. Et Jésus leur dit, « Qui sont ma mère, qui sont mes frères ?» Question. Et il y répond, « Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et quoi ?» Et les met en pratique. Voilà mes frères et mes sœurs. Est-ce que Jésus, en disant cela, il dit qu'il faut que nous méprisons nos frères et nos sœurs biologiques? Non. Il voulait mettre la primauté parce que ce genre de fraternité, elle est éternelle. Elle ne s'arrête pas. Si votre frère, du même père ou du même mère, ne croit pas en Jésus et qu'il arrive dans la vie que vous vous séparez par la mort, il y a de fortes chances que vous n'allez plus vous retrouver. C'est sûr et certain. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. De son vivant, s'il ne connaît pas Jésus, mais c'est fini. Mais par contre, si de son vivant, il connaît Jésus comme vous, vous connaissez Jésus, ah, ce ne serait pas à Dieu et au revoir, c'est la même chose, comme nous avons l'habitude de dire. Vous allez le retrouver. Vous partagez les mêmes valeurs. Encore une raison de plus pour que la puissance du Dieu se manifeste. Être frère et sœur, c'est de recevoir Jésus et de faire la volonté de Dieu. Alors, je termine avec ce texte que nous avons lu dans Psaume 133, les conséquences de la famille de Dieu, lorsque nous nous retrouvons. Cette famille constitue le royaume du Seigneur. Et ce royaume se construit autour de la personne de Christ. Et il faut connaître Jésus, le Christ et sa mission. Vous avez vu le mot là? Jésus, le Christ. Celui que Dieu a ramené de la mort à la vie et qui l'a établi à sa droite. Et nous devons le connaître. Quand je dis connaître, c'est le connaître selon la Bible. Car l'apôtre Paul dira, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Connaître la personne selon la chair, c'est de le connaître du point de vue historique. C'est de le connaître du point de vue anthropologique. Mais l'apôtre Paul va dire que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous devons connaître Christ selon l'Esprit. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Vivre pour Jésus qui est mort et ressuscité, c'est vivre pour son corps. C'est vivre pour vous. Si je vis, c'est à cause de vous. Et si vous êtes là, c'est à cause de moi et vice-versa. Avec tous les bénéfices que cela donne. La puissance qui se dégage de l'unité. On ne se rend pas compte. Et l'ennemi le sait. Que s'il nous laisse le temps d'être ensemble, c'est fini pour lui. Ah, il va chercher les bisbilles, il va mettre passé. Ah, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit contre toi? Est-ce que tu as pensé? Et nous commençons à élaborer, à élever des murs contre nous. Et puis, nous devenons isolés. C'est-à-dire affaiblis. Et c'est-à-dire dévorables. C'est-à-dire, il est capable de faire de nous ce qu'il veut. Rejoignons le cep. Vous êtes les sarments. Jésus est le cep. Quel est le travail que le sarment a à faire pour être au cep? Rien du tout. Que de veiller à ce qu'il soit attaché au cep. C'est tout. Et après, le reste vient tout seul. Si vous vous rendez compte que vous êtes attaché au cep, c'est déjà pas mal. C'est un grand travail déjà. Et le reste, vous pouvez vous reposer. Parce que quand vous dormiez et que vous vous réveillez, l'action du souffle de l'Esprit de Dieu est toujours en route. Et vous porterez les fruits au temps convenable. Connaître Jésus dans ce contexte. Et j'en termine. Si nous faisons cela, nous participons à la réponse à la prière de Jésus. Vous vous souvenez dans Jean 17? Seigneur, je prie pour qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Waouh, quelle prière! Quelle prière! Jésus a anticipé. Seigneur Dieu, je prie pour que ceux que tu m'as donnés soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Mais comment une personne peut être unique si nous sommes plusieurs? Et Martin Luther l'a bien dit, que Jésus est le centre de la vie chrétienne. Tout autre centre, tout autre travail que nous devons faire, nous devons le faire par rapport à ce centre-là. Et Jésus est celui qui est le centre. C'est par rapport à lui que nous devons tout définir. Et nous devons tous devenir les enfants de Dieu. OK? Voilà. Cultivons la pensée du Seigneur, car c'est un travail à plein temps. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il faut de la volonté. Mais il faut aussi, on le dit souvent, je me plais toujours à dire pour le mariage, il s'agit aussi de concéder sa liberté. Quand un célibataire, il vit seul, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Sortir le matin, jeter sa chaussette là où il veut, ou aller à la cuisine, faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu as un conjoint, tu commences à être prudent. Voilà. Et je vois que pour l'histoire des chaussettes et parfois l'histoire des cuillères et des fourchettes, ça devient autre chose à la maison. Et lorsqu'il y a des enfants qui naissent, votre champ de liberté se rétrécit. Vous faites ce qu'on appelle des concessions. Et donc, quand on vit dans une vie communautaire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas offenser mon frère, ma sœur? Et je veille à ce que... Et si ça arrive par accident, ça peut arriver. Mais il faut être capable de transcender. Parce que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Voilà ce que Dieu nous donne de faire, mes bien-aimés. Voilà, c'est dans ce cadre agréable où nous pouvons obtenir maintenant les bénédictions. Quand on est dans un tel contexte, rien ne nous retient. Tout est là. Le pouvoir de Dieu se manifeste. Le pouvoir de guérison, le pouvoir de restauration. On n'a même pas besoin d'imposer les mains aux gens pour obtenir la guérison. Une bonne prédication, bien écoutée, amène la main de Dieu, touche l'endroit de notre vie et restaure les choses. Et les choses se mettent en place. Et nous vivons allègrement, le regard pointé vers l'horizon, là où nous devons atterrir, là où Jésus devait venir nous chercher. Et nous ne regardons pas les petits bobos à gauche, à droite, qui nous retardent parfois, et pour lesquels nous prenons beaucoup plus de temps à nous plaindre, au lieu de nous relever, serrer les dents, fermer les yeux et avancer. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes une grande famille. C'est une grande bénédiction. Évitons que Jésus nous pose la question, qu'as-tu fait de ta sœur? Qu'as-tu fait de ton frère? Cette question, il a posé à Caïn. La bouche de Caïn était fermée, il ne savait quoi dire. Mais j'aurais aimé qu'un jour que le Seigneur nous pose la question, que vous lui répondiez. Ah oui, j'ai été là. J'ai été là, Seigneur. Même si ce que j'ai fait n'est pas parfait, mais j'ai été là. Alors Jésus dira que oui. Au moins, toi, tu ne portes pas mon nom en vain. Soyez bénis. Serrez cette parole dans votre cœur. J'aurais aimé le retourner dans tous les sens, mais parfois le temps nous manque. Mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mes bien-aimés. Nous sommes une grande famille, une grande richesse que le Seigneur nous donne. Un moyen de grâce. Et veillez avec soin. Car quand on a quelque chose de précieux, on veille, on le protège. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous rendons gloire à toi, ton Seigneur. Les réalités du royaume de Dieu parfois nous dépassent. Et aujourd'hui, tu nous as interpellés. Accorde à notre cœur de vérifier la qualité de notre amour. Comment nous vivons notre vie de famille en Jésus. Nous sommes un royaume sur lequel Jésus est établi roi. Et c'est lui qui est la tête et nous sommes les corps. Donne-nous, Seigneur Dieu, de réaliser cela et de vivre réellement cette vie que tu nous donnes. Accorde-nous de nous décentrer de nous-mêmes, car notre nature ancienne nous conduit vers nous-mêmes. Nous oublions que notre vie doit être donnée en libation pour les autres. Vivre la vie de Christ, c'est vivre une vie, disons, de sacrifice pour les autres. Chacun d'entre nous doit être le pain de vie pour l'autre, comme tu as été pain de vie pour nous. Et cela suppose que nous nous renonçons à nous-mêmes. Et ça, ce n'est que toi qui peux faire cette œuvre. S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse pas comme par le passé. Donne-nous de devenir de nouvelles créatures en toi, les vraies, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.